Non, mais du coup, ouais, je pense je vais faire un peu d'archéologie, je vais retourner dans plein d'anciens travaux et puis on bifurquera. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions ou quoi, que ce soit technique ou autre, au fur et à mesure. Et donc, oui, j'étais étudiant à l'école des Beaux-Arts de Bourges, à l'époque où le studio son il était au fond de la sérigraphie, il y avait un Pro Tool, c'est deux Genelec, et ça s'arrêtait à peu près à ça. Il n'y avait aucun matériel qui a pu avoir par la suite. Et c'est au fur et à mesure de l'école où Jean-Michel a de plus en plus investi dans l'atelier son et puis il y a eu la création du studio en dessous et tout ça. Donc c'était vraiment au tout départ à ce moment-là. Et à cette époque-là, je vais vous montrer juste ce que j'ai pu faire, qui était un peu naïf, on pourrait dire à l'époque. Il y avait eu ça dans la cour de l'école, donc c'était très référencé Fluxus. C'est une vidéo de très mauvaise qualité, mais j'ai pas la meilleure de l'époque. Et ça avait été. L'idée de ça, elle était très simple, c'était juste considérer que les sons que le piano il pourrait produire pendant la combustion, ce serait la partition à rejouer potentiellement. Donc les quelques notes qui sont. La vidéo elle n'avait pas été présentée, c'est vraiment une archive. Ce qui avait été présenté, c'est la prise de son qui était en quadriphonie et le cadre du piano qui était. Avait brûlé, donc juste le reste avec le son qui est autour. Dès le départ, j'ai commencé à maltraiter un peu ce qui me passait entre les mains, que ce soit des instruments ou des supports d'enregistrement que vous verrez par la suite. La raison, je ne sais pas exactement, je pense que c'est en réaction un peu à. C'est une manière de détourner et de. À la même époque, j'avais fait. Il y avait eu ça. C'est juste une batterie qui est accrochée au mur. C'était l'idée d'avoir de considérer l'instrument vraiment comme un truc visuel et puis le fait de l'accrocher. Après, elle était praticable, on pouvait en jouer, elle était accessible. Ça s'est représenté par la suite d'autres endroits. Et donc à la suite de ça, moi je suis parti au Frénois et c'est là où ça a pris un peu plus d'ampleur. Ce qui s'est passé la première année au Frénois, j'étais parti sur l'idée de qu'il y avait tous les supports d'enregistrement qui commençaient à disparaître, entre autres à cause ou grâce à l'informatique. Et que c'était vraiment dans l'idée de fixer les traces de ces supports avant qu'ils soient plus vraiment accessibles. C'était vraiment le moment où les productions de cassettes s'arrêtaient, le mini-disque on annonçait sa fin.
C'était en quelle année que tu étais au
Ça, c'était 2006, 2007, 2006-2007. Et donc le projet, ça avait été d'aller dans les usines de fabrication de ces supports, d'enregistrer le processus de fabrication et de replacer le son sur le support d'origine. Donc on se retrouve avec un support qui raconte sa propre histoire, donc c'est complètement tautologique, c'est une mise en abîme. Mais ça donnait un espèce d'objet complètement autonome qui le fait de le lire, on entend ce qu'il a subi en fait pendant son process de fabrication. Et donc ça a été fait. Je vais vous montrer les autres choses. Qu'est-ce que c'est? C'est lui. Donc c'est un truc que j'ai fait sur le vinyle. Je suis parti dans l'usine de fabrication de vinyle. Alors c'était assez chouette parce que il y avait eu le contrat qui était passé, c'est qu'il n'y aurait pas de prise visuelle pour des histoires de secrets de fabrication. Et donc c'était uniquement un document sonore. Après moi par la suite j'ai redessiné de mémoire les machines qui correspondaient. Donc ça c'est l'édition qui a été faite pour le vinyle que vous avez là. Vous pouvez la consulter si vous voulez. Il y avait des documents attenants. Et l'objet en lui-même, pour ce qui est du vinyle, c'était d'arriver à une sorte d'objet édition, c'était qu'il soit très cohérent en tant que tel, et à savoir que chaque élément du disque est passé sous presse en fait à un moment ou à un autre. Donc ça a été la presse vinyle pour le disque forcément, ça c'était en sérigraphie.
C'est fragile.
Ouais mais vas-y, ça va, je crains pas. Ça c'était en presse typo, qui permettait d'avoir le fantôme derrière, comme ça. Et ça, c'est en presse gravure avec un disque imprimé. Et donc, c'était vraiment que chaque élément soit considéré comme le disque, c'est-à-dire passé sous presse, imprimé de cette manière-là. Et on peut écouter. Je peux directement ici. Mettre le disque, c'est mieux. Et donc ça, ce processus, il a été... C'était un peu la base vraiment de tout le travail qui s'est développé par la suite, qui était une sorte d'archéologie des médias et de vraiment réfléchir sur le statut que peut avoir un support d'enregistrement.
Avant qu'on écoute, il y a quoi sur le vinyle ?
Sur le vinyle, c'est tout le son de la fabrication. Donc c'est étape par étape, c'est du studio de mastering jusqu'à... En passant par l'usine de pressage jusqu'à la sortie des disques, les écoutes test, et après...
C'est ça ?
Ouais, c'est ça. C'est une sorte de partition chronologique du disque.
Donc le temps de l'écoute, c'est exactement le temps de la fabrication ?
Non. Parce que sinon il faut un très très grand disque. Mais non, après c'est justement tu as les temps qui correspondent aux étapes dedans, sauf que sur un vinyle t'as pas de compteur de temps, donc c'est... Ça c'est l'allumage des amplis au studio de mastering. Ça c'est l'aspirateur qui est mis en route. Les différents boutons pour le mettre en marche. Donc ça c'était gravé en direct en fait, ce qu'on a fait là. C'est-à-dire que les micros étaient branchés directement sur la graveuse qui était en train de s'enregistrer elle-même. Donc c'est pour ça que ça crée un petit feedback qui arrive aussi. Puisque le signal qu'il est en train de graver, c'est ce qu'il est en train de produire, donc ça fait une réinjection. Et ensuite on passe à l'usine de fabrication. Alors ça c'est la mise en place de des enregistrements. Donc c'est ce qu'on entend, c'est la cassette, le DAT que j'avais enregistré dans l'usine. Voilà, là on passe à l'usine. Oui, je vais vous parler en même temps, mais c'est en gros le mix est très musique concrète, comme ça, un peu document sonore, document radio. J'ai mis aucun effet, c'est vraiment juste du montage bout à bout avec des fade in, fade out. Mais il n'y a pas eu de process digital ou quoi pour rester aussi très cohérent dans le son. Et alors, un truc marrant qui s'est produit, c'est que donc l'usine dans laquelle il a été pressé, c'est l'usine dans laquelle j'avais fait les prises de son. Donc les machines qui ont produit ce disque, qui étaient en train de presser le même son, elles produisaient le même son qu'elles étaient en train de presser sur le disque. Et il y a un poste dans l'usine qui est la personne qui doit contrôler toute la sortie des disques, parce qu'en vinyle, il y a des erreurs qui peuvent se produire, et donc il faut un contrôle continu sur la sortie des disques. Et donc il y a deux personnes dans l'usine qui passent leur journée au casque à écouter tous les disques les uns après les autres, enfin tous, ils en prennent un au hasard, ils l'écoutent en entier, puis ils prennent le suivant, ils l'écoutent. Et donc tu as eu cette dame qui s'est retrouvée à ce poste à devoir écouter ce disque qui en fait était les bruits de l'usine de l'extérieur. Et donc elle était complètement, quand elle m'a raconté ça, c'était vraiment marrant parce qu'elle disait, mais je mettais le casque, je retirais, j'arrivais pas à savoir s'il y avait une erreur dedans parce que c'est tout ça, c'est les mêmes bruits. Et puis une autre anecdote par rapport à ça, c'est l'usine a fermé 2 ans après, à peu près. Et avant la fermeture, ils ont fait un tirage pirate en fait de ce disque-là pour les ouvriers. Donc il y a la dame, je ne sais plus comment elle s'appelait, c'était... je ne me souviens plus de son nom, c'est pas grave. Mais elle m'appelle au téléphone, elle me dit « Oui Yann, bon, il faut qu'on te dise, on a refait 30 vinyles de ton disque qu'on s'est distribué entre les ouvriers, j'espère que ça ne te dérange pas, et tout, et tout. » Et c'était vraiment drôle parce qu'ils se sont retrouvés dans la situation de devoir faire une copie, comme ça.
Avec les machines de l'usine.
Ouais, avec les mêmes machines. Ouais. Et donc ça, c'est un travail qui a été fait donc sur le vinyle.
Est-ce que toi, ce son, il t'intéresse en termes de son ou c'est juste une trace pour toi ?
Non, il m'intéresse clairement. Il y a des trucs assez musicaux là, dans tout ce qui est rythmique comme ça. Moi, c'était vraiment du... La manière dont j'écoute des machines, c'est relativement musical. Donc ça va au-delà de simplement le document sonore. Après, la manière dont les gens l'écoutent, ça je maîtrise pas. S'ils l'entendent juste comme des bruits, ça me dérange pas plus que ça. Donc ça, ça a été fait le même principe sur le CD. C'est une entreprise qui fermait aussi au moment où j'ai pris contact avec elle pour aller faire les prises de son. Le mec m'a vraiment speedé pour venir faire les prises avant que l'usine ferme. En fait, il se trouve que ce CD, je sais pas, il doit être quelque part. C'est le dernier qui a été pressé dans l'usine, qui s'appelle Dog Data, un nom très sexy, qui était à côté de Reims. Et le type l'a fait, il m'a appelé genre la veille du pressage pour me dire, mais on ne pourra pas le faire parce que... parce que tout le matériel est saisi, ils arrivent demain et ça sera impossible de produire ce CD. Et j'ai vraiment insisté au téléphone et le gars est allé faire ça le soir. Il a relancé les machines pour sortir le dernier disque de l'usine, ce qui était assez émouvant. Mais je ne sais pas où il est. Je l'ai ramené. Parce qu'il va réapparaître.
Les éditions, c'est le vinyle et c'est CD. Enfin, je sais pas s'il y a une édition.
Voilà, mais si, tout ça, c'est été...
Pas, c'est fait dans d'autres usines parce qu'elles fermaient tout après.
Non, ça a été fait dans les usines où c'était enregistré, justement.
Mais le CD, pour le coup, c'est T'avais un master qui était sorti de chez eux, mais après, t'as dû faire des copies ailleurs.
Donc, moi, je voulais faire les prises de son, et puis après, j'avais prévu 2 semaines pour faire un mixage, et puis lui renvoyer le master pour qu'il presse sur place. Et donc, c'est ça où ça s'est fait au dernier moment. Il m'a appelé la veille en me disant qu'il pourrait pas le faire, et finalement, il l'a fait quand même. Donc, si, ça a été fait dans la même.
Ah oui, il a pu en sortir plusieurs.
Il en a fait 300, j'ai reçu ça dans un carton tout. Il a vraiment renvoyé ça à la va-vite. Et donc j'ai fait la même chose sur le DAT. C'est une usine qui a fermé aussi dans les 6 mois, 1 an après les enregistrements, qui était à Dax. Et c'était l'usine Sony qui fabriquait toutes les bandes magnétiques pour l'Europe. Et ça, ça a été délocalisé par la suite. Le mini-disque, j'ai pas trouvé d'usine. Enfin, j'avais pris contact avec MPO et ils ont jamais répondu aux demandes. C'était les seuls qui fabriquaient en Irlande à l'époque. Je pense qu'ils ont dû arrêter depuis. La cassette, ça correspondait parce qu'à Dax, ils fabriquaient aussi des bandes de cassettes. Et la mini-cassette et bandes magnétiques, tout ça, ça a été fait dans l'usine à Dax. Donc là, il n'y a pas eu de retour à l'usine parce que c'est des enregistrements que j'ai fait à la maison. T'as pas vraiment de bande production. En tout cas, eux ne les avaient pas, donc je les fait en toute petite édition. En gros, c'était le vinyle, il est sorti en 333 exemplaires, 330 copies. Le CD, 300, et après, ça c'était plutôt des.
Qui inclut les 30 copies des ouvriers?
Non. Non, je ne l'ai pas. Oui, c'est vrai, je pourrais mettre plus 30. Mais et les autres, c'était des petites éditions à 30 exemplaires. Donc vous avez les objets, c'était relativement simple. Mais j'ai essayé de trouver quand même la cassette. C'est un truc que j'ai fait importer du Japon, mais c'est des cassettes sans fin. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais la bande est bouclée à l'intérieur. Et donc il y a 6 minutes en boucle qu'on peut écouter indéfiniment. Ils en ont produit des 3, 6, 9 et 12 minutes. Ça peut se trouver encore sur eBay. Et le mini-disc, j'avais décidé de partir sur vraiment le format professionnel, qui est un boîtier assez beau qu'on retrouvait dans le commerce ensuite. Enfin, il y a eu quelques. Ça donnait un objet assez beau aussi comme ça. Il y a eu tout un travail de. J'ai pas emmené, mais c'était dans des enveloppes, c'était un peu poussé graphiquement avec des dessins aussi qui correspondaient aux étapes de fabrication. Ou des petits symboles comme ça qui étaient imprimés. Pour le MIDI, c'était plutôt des choses de. Ça, c'est les courbes de compression du signal sonore en ATRAC 3, qui est le format de compression MIDI. Et puis des schémas techniques. Ça c'est un truc, si jamais il y en a qui se retrouvent au Frénois, vous verrez que c'est c'est vraiment une école de production et ils sont pas trop l'habitude de se retrouver avec des projets comme ça d'édition. Donc ça s'est vraiment fait en parallèle. Moi, ce qui s'est passé essentiellement au Frénois, ça ils ont pas vraiment là-dessus, ils en ont juste demandé une copie en archive, mais ça les intéressait pas plus que ça. Ce qui avait été présenté au Frénois, c'était. C'était l'installation qui mettait en jeu chaque lecteur qui correspondait avec le support. J'avais fait en sorte que ça puisse être bouclé, donc chaque chose pouvait se lire indéfiniment. Et alors un truc intéressant qui s'est produit, c'est que dans la durée de l'expo, forcément les supports se sont usés et les signaux ont disparu progressivement. Donc le vinyle, les sillons bouclés qui sont sur l'autre face du vinyle. Qui correspondent plus. Ça c'est pas la fabrication, c'était une référence à Marclay avec toutes les manipulations qu'il avait pu faire d'usure de disques. Donc j'avais fait des boucles de. Et ça sent le rayant. Ça sent le coupant. Et donc ce qui s'est passé dans la durée de l'installation, c'est que tous les supports se sont effacés progressivement. Et le mini-disque a planté complètement après quelques semaines. Le CD, il s'était mis à bugger sur une seule, sur un seul morceau. Et tout ce qui est le DAT, lui, il a tenu jusqu'au bout. Et les bandes magnétiques se sont effacées parce que dans la boucle, à force du contact, la matière s'use et le signal disparaît. Et donc ça a fini où c'était plus qu'une sorte de bruit blanc, un bruit léger de frottement et le CD qui déconne.
À qui appartiennent les machines ?
Pardon ?
À qui appartiennent ces machines ?
À moi.
Tu les as toujours ?
Ouais. Ouais, ouais. Et donc voilà, ça c'était 2006-2007. C'est un projet qui a pris du temps. Enfin, au Fresnois, ils demandent des projets sur un an et c'était même un peu court pour tout réaliser, pour finir les éditions et tout ça, mais ça a pu se faire. Et la deuxième année.
Chaque machine diffuse son propre son.
Voilà.
C'est intégré dans le socle.
En fait, j'avais choisi des
Oups. Les objets avaient leur propre haut-parleur.
Ouais, ils ont tous, donc soit ceux qui n'en avaient pas, il y avait un casque, mais sinon ils ont tous un haut-parleur intégré.
Ah oui, les systèmes, c'est la machine.
Ouais.
Est-ce que tu as fait tomber dans le domaine public, en fait, tous ces sons qui permettent en fait, à tout le monde de réécouter, dans 30 ans, ce sera beaucoup plus intéressant?
C'est possible, mais en tout cas, ils sont tous domaine public. Moi, j'ai jamais mis aucun copyright ou quoi, donc c'est. Mais ils sont tous en ligne, ils sont accessibles.
Je pensais plus à quelque chose comme cette valeur du son, d'archives sonores qu'on enregistre, par exemple, les sons du 17e, du 16e, du 17e, on ne les connaît plus. Aujourd'hui, on a les moyens de les enregistrer, mais c'est pas ce qui se passe actuellement.
Ouais.
Du coup, dans 20 ans.
Dans 20 ans. Je suis pas sûr que le mini-disc soit encore lisible, mais les autres supports, il y a de grandes chances qu'ils soient, s'ils sont bien conservés, il n'y a pas de problème.
Qu'ils soient lisibles et puis qu'on puisse encore écouter ce qui se passait à cette époque-là.
Ouais. Après, c'est marrant, hein, c'est le vinyle, il est en pleine remontée. Il y a plein de. Alors, ce qui est marrant, c'est que on a quitté le domaine industriel pour tomber dans l'artisanat, en fait. C'est que le vinyle qui était. Clairement une industrie avec des millions et des millions, des centaines de millions de disques qui pouvaient être produits par an. Au moment où ça a périclité avec l'arrivée du CD, les usines ont commencé à fermer, à vendre les machines, il y a eu des histoires de monopole. La boîte qui s'appelle MPO en France, ils sont absolument ignobles. Je vous conseille de ne pas passer par eux si vous avez apprécié un disque. C'est que eux ont par exemple racheté des usines qui commençaient à être en faillite simplement pour les fermer définitivement, pour capter le marché et tout centraliser chez eux. Ils ont fait ça sur plusieurs boîtes en France et en Europe. Mais tu as quand même eu quelques machines qui ont pu être récupérées par des gens ou des petites entreprises et qui sont vraiment tombées dans l'artisanat. Et là, on est plutôt quelques milliers de disques par an produits avec une attention qui est portée, avec un amour du support et tout ça. Donc on ne perd pas la technique, hein, elle ne va pas se perdre. C'est simplement qu'on quitte le domaine industriel pour arriver sur de la pratique artisanale. Ce qui est exactement en train de se passer en ce moment avec la cassette, avec beaucoup de gens qui rachètent des bandes copies et qui montent des studios complets en bandes magnétiques et tout ça pour pouvoir produire. Et ce qui va forcément arriver avec le CD aussi. Je pense que d'ici, même c'est en ce moment, il doit y avoir moyen d'acheter une presse CD pour quelques milliers d'euros, qui est un truc qui coûtait des centaines de milliers d'euros il y a 15 ans. Et donc tu tombes dans ce domaine artisanal. Et là, ça va perdurer. Moi, je pense qu'il restera toujours, des amoureux, mais on arrive sur c'est des niches un peu comme ça.
Oui, mais le son ne sera pas le même.
Le son ne sera pas le même, non.
C'est plus le contexte.
Oui, non, c'est clair. Ça, c'est clair. Parce que par exemple, l'usine de vinyle, elle possédait sa propre fabrique de plastique. Donc il y avait une partie dans l'usine avec un énorme silo où ils fabriquent la matière vinyle qui ensuite arrivait en granulé dans la multitude de presses et puis était injecté, chauffé, pressé et puis le disque sort. Donc ça, ce process-là, ouais, il disparaîtra parce qu'aujourd'hui, soit tu achètes les granulés directement, soit tu... Alors c'est marrant, on peut faire du vinyle avec des vinyles. La boîte moi, que j'ai fait presser celui-là, ça s'appelait VPI, Vinyl Press Industries. Et quand il a démarré, en fait, il a racheté tous les stocks d'une boîte qui s'appelait Disco France. C'est ceux qui produisaient Barclay et tous les labels de l'époque français. Et en fait, il a racheté les stocks de disques pour les refondre et presser les sorties que lui allait faire, qui étaient plutôt de la musique techno et des choses de hip-hop. Mais donc, il y a une partie de la production de vinyle début 2000, fin des années 90, qui est en fait des invendus des années 60 qui se sont retrouvés. Donc, il y a quelque part un peu de Johnny Hallyday dans un vinyle de micro-pointe. On peut retrouver des... Il faudrait faire une analyse moléculaire comme ça, mais il doit y avoir moyen de retrouver des traces.
L'ADN.
Ouais.
Et le vinyle, c'est gravé ou c'est pressé?
Alors, le vinyle, il est gravé au studio sur ce qu'on appelle une laque. J'en ai pas amené avec moi, mais c'est un... C'est pas une matière plastique. La laque, c'est une surface de zinc qui est recouverte d'acétate dessus. Donc c'est une matière qui est extrêmement fragile et qui est très pure, qui est complètement lisse, il n'y a pas une poussière, mais c'est très fragile. Et c'est ça qu'on grave au studio de mastering. Et ensuite, elle est tout de suite mise sous scellé, mise au frigo pour la conserver, envoyée à l'usine. Et c'est à partir de ça où ils vont extraire les matrices qui va servir à presser le vinyle. Et la matrice, ça, tu la gardes très précieusement parce que c'est ce qui permet de refaire des productions par la suite. Généralement, c'est propriété de l'usine, ça t'appartient pas. Ça appartient à l'industriel qui possède la matrice.
Et quand on voit que maintenant, parce que quand tu parles justement d'industrialisation et de l'artisanat, moi ça me fait penser à un truc, c'est que il y a des possibilités aujourd'hui de faire graver son son. Par exemple, tu veux offrir à un pote qui fait de la musique des morceaux qu'il a fait sur un vinyle, tu trouves pour 20 ou 30 euros, ouais, tu peux acheter un vinyle.
Ouais, bah voilà.
J'ai l'impression que ce truc-là n'existait pas du tout dans un monde industriel où tu pouvais pas faire un vinyle. Et ce vinyle, par exemple, s'il est unique, il passe par le même procédé de lac et tout, ou est-ce qu'on peut le graver?
Non, là,
moi, j'avais le fantasme que c'était sur des vinyles vierges qu'on gravait.
Voilà, c'est ça. Mais donc, c'est pas du vinyle en fait, c'est du PVC ou du polycarbonate, c'est le PVC. Donc, c'est une autre matière, mais bon, ça reste la forme du vinyle. Mais là, c'est gravé directement de manière unique. Tu passes pas par la même machine pour faire ça en fait. C'est des machines qui sont un peu plus. Robuste que la graveuse de studio de mastering, qui est d'une fragilité et d'une précision extrême. En fait, vous pourrez trouver, si ça vous intéresse, il y avait Vestax qui avait sorti une graveuse.
Ah oui. Je vois laquelle, qui coûte cher quand même.
Voilà, c'est celle-ci. Donc ça, c'est du FEM pour graver chez soi comme ça, mais ça vaut quand même dans les 12-14 000 euros.
Et c'est assez facilement fabricable quand même, ce genre de machine.
Alors c'est fabricable, tout dépend du degré de qualité que tu vas chercher en fait.
Oui, j'imagine.
Mais tu peux le faire avec un haut-parleur et une aiguille, et puis graver à la main comme ça, tu auras du son, hein, mais tu n'auras pas la fidélité. Attends, je vais essayer de trouver. Donc sinon, il y a un mec qui est hyper intéressant, si les trucs de vinyle vous intéressent, c'est un gars qui s'appelle Flo Kaufmann, qui est un Suisse, et qui lui est en train de sortir justement une tête de gravure à bas coût qui devrait tourner autour des 1500 euros.
C'est un gros collectionneur de têtes, mais il en a plein.
Ouais, ouais. C'est
le spécialiste.
Ouais. Alors sur son site, vous trouverez plein de...
C'est Floxy, son site. Flokies.
Ouais, attends, j'essaie de trouver. Voilà, ça c'est la tête que lui il a développée et qui en fait se plug sur n'importe quel platine vinyle, mais il a plutôt fait pour des MK2 pour la grosse référence. Mais donc la tête en elle-même, il arrive à la sortir à 1000$. Après il y a l'axe et tout ça, ça coûte un peu plus. Ce qui coûte cher ensuite, c'est les amplis de qualité pour alimenter ce type de matériel. Mais c'est révolutionnaire hein, ce qu'il a fait. Ça va permettre de effectivement développer des artisanats de passionnés. Et avec ça, on peut faire autant du master que de la gravure unique. Donc on peut graver sur acétate pour envoyer à l'usine pour du vrai pressage, ou alors de la gravure unique sur vinyle. Et sinon, ouais, je vous conseille vivement d'aller fouiller sur Floca parce qu'il y a énormément de données sur. Est-ce que c'est. Il est un peu bizarre son site. Engineering. Voilà, là il y a tout sur les têtes de gravure, et vous avez toutes les références de toutes les époques. Les lacs, pareil, etc., etc. Les différentes presses et tout ça. Enfin, c'est une base de données qui est assez importante pour pas mal de personnes. Donc. Voilà, moi donc c'est clair qu'à cette époque, moi ça a été la porte d'entrée vers tout ça. Hein, le moment où tu comprends, il y a un truc qui est hyper intéressant avec le vinyle, c'est que le son il est vraiment physique dedans en fait. Il est inscrit physiquement dans la matière. Et en terminant ce projet, il y a eu un. Si, c'est ça. En terminant ce projet, il y a eu un truc assez étonnant qui m'est apparu, c'est que donc quand on forcément ça nous fait retracer l'histoire du support d'enregistrement, et donc l'histoire du son, la mémoire sonore en fait, et on se rend compte que voilà, ça c'est des médias, donc c'est une interface entre le son qui est inscrit et notre oreille qui va l'écouter. Et donc quand on retrace dans cette histoire, on se rend compte que le vinyle, on était sur un rapport extrêmement physique. C'est le son est inscrit dans la matière et la pointe de lecture vient rentrer dans le sillon. On a un réel contact, une réelle interaction entre le support et le lecteur. Le lecteur rentre en vibration en fait avec le support, ce qui permet de produire le son. On n'aurait pas besoin forcément d'électricité, on pourrait le faire tourner à la main et prendre un cornet de papier avec une aiguille et on pourrait entendre le son sans aucune énergie électrique. L'étape d'après dans le support, ça a été en faisant des raccourcis parce qu'il y a eu quelques inventions entre, mais c'était globalement la cassette. Et la cassette, on se rend compte qu'il y a toujours contact entre le support et le lecteur, mais on n'est plus que sur du frottement. Donc on n'a plus pénétration de la matière par le lecteur. Puis l'étape d'après, ça a été le CD, où là, carrément, on se décolle de la surface, et c'est une lecture optique. Et on n'a plus du tout de contact entre le support et le lecteur. Donc les gains qu'on a voulu dire, c'était la qualité d'écoute, le fait que le lecteur n'usait plus le support. Mais en fait, le support est beaucoup plus fragile, donc on ne sait pas trop où est le gain. Et puis l'étape d'après dans l'informatique, c'était tout ce qui est le développement des cartes SD et des petits lecteurs MP3 et tout ça, qui sont des cartes flash, où là, il n'y a plus rien d'inscrit physiquement sur le support, c'est que des charges électriques, des différences de charges électriques qui permettent de garder la mémoire de ce qui a été inscrit. Et en fait, on se rend compte clairement qu'au fur et à mesure, on se sépare complètement de la matière. On est mis à distance de la matière, en fait, dans l'histoire des technologies. Donc ça, on peut l'appliquer au support d'enregistrement, mais vous pourrez on peut le transposer sur d'autres supports. La photo, ça a eu lieu, le cinéma qui est lié avec la photo, c'est pareil. Mais on a clairement une sorte de mise à distance de la matière originale, quoi, de la source. Et Donc c'est bien, ça apporte plein de gains on gagne en place, on gagne en qualité, soi-disant. Mais avec le MP3, c'est difficile de parler de ça quand même, de qualité en tout cas. Et en fait, on se rend compte, donc avec cette mise à distance, c'est qu'elle ne peut pas avoir lieu toute seule, c'est qu'en fait, il y a une quantité d'interface qui est mise en... qui s'accumule. C'est-à-dire, là, il n'y a aucune interface, vraiment. Hein. On pourrait écouter le son simplement avec un ongle bien taillé, on le met dans le sillon, on pourrait percevoir les vibrations. La cassette, ça a été... Il faut absolument une alimentation électrique, mais ça reste une lecture analogique. Le CD, c'est de la lecture, c'est une inscription digitale, donc il faut un convertisseur qui fait digital to analogique. Donc tout ça, c'est des interfaces qui viennent s'intercaler entre la source et l'auditeur. Donc j'ai mon point de vue critique dessus, mais au-delà de ça, c'est simplement, je pense que c'est important de s'en rendre compte et donc de savoir quand on utilise tel support, ce que ça implique par rapport le rapport qu'on entretient avec le support qu'on utilise. Et l'informatique, bon, c'est clair que la multitude d'interfaces est telle qu'on pourra même plus savoir exactement quel chemin est suivi, dans quelle puce pour arriver entre le haut-parleur l'origine du fichier. Enfin, on peut le suivre, mais c'est absolument délirant, la multitude de circuits dans lesquels ça passe avant d'arriver jusqu'au haut-parleur. Donc moi, ça c'est clair que c'était un truc qui m'a vraiment marqué de comprendre ça, et ça a influé beaucoup sur toute la pratique que j'ai pu développer derrière, qui était quelque part de couper court avec ces interfaces et de revenir clairement à la source des choses. C'est à la suite de ça où j'ai commencé à ouvrir des lecteurs CD, venir écouter les différentes puces à l'intérieur du lecteur CD. Il y a eu ce CD qui est sorti il y a quoi? Il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans maintenant. Qui est là-dessus, c'est que des lecteurs CD qui sont ouverts. Donc c'est pareil, il y a un petit livret avec pas mal de schémas techniques pour comprendre ce qui s'y passe. Donc c'est des jeux graphiques aussi. Donc il y avait des lecteurs CD, des lecteurs DAT que j'ai ouverts pour ce travail-là. Ça, je peux vous faire écouter un petit extrait. Pour lire le CD, parce que j'utilise des pointes de vinyle, des lecteurs magnétiques, des micro-contacts, et c'est multiplier les sources que peut produire le lecteur pour ensuite les mixer entre elles et essayer d'obtenir un truc relativement musical dedans.
C'est une impro ou c'est monté?
Non, alors tout est improvisé au départ, et puis après il y a un travail de studio qui est monté, mais ça part d'une impro. la manière dont c'est manipulé, c'est plutôt comme ça. Ah merde. Boulette. Ah, mais non.
Je crois que tu peux restaurer les interdictions.
Vas-y, bah,
là-dedans.
YouTube, sinon.
Ouais, mais il va me faire pareil. Non. Ok, on va passer sur une autre.
Sinon, on se rend compte aussi comme ça.
Ouais, je peux le laisser comme ça aussi.
Ouais.
C'est dommage pour d'autres choses. Donc voilà, c'est vraiment c'est jouer au scratcher, mais sur des toutes petites surfaces de lecteurs CD comme ça, avec plusieurs têtes de lecture. Ouais, mais bon, ça c'était un peu à la suite de bosser uniquement sur les lecteurs CD. J'ai commencé à utiliser aussi des disques durs, des lecteurs cassettes, tout ça ouvert et uniquement pour avoir le bruit de leurs artefacts et pas l'origine de la source. Enfin, pas le son qui est inscrit, mais vraiment uniquement les bruits mécaniques et tous les parasites que ça peut produire. La valeur d'archive.
La valeur d'archive d'un son qui est lié à une époque.
Je sais pas. Tu veux dire en fait? Parce que non, quelque part c'est aussi le bruit des machines en fait qui, une fois qu'elles disparaissent, on ne saura plus le bruit qu'elles produisaient. Pally Meursault, il a coédité là il n'y a pas longtemps une revue qui s'appelle Poly 11 où il parle justement de ces aspects-là. Où en fait c'est le on a toujours cherché à ce que la machine disparaisse, donc la technologie disparaisse dans son utilisation. Donc elle doit toujours être complètement silencieuse. C'est le but d'une n'importe qui va chercher à produire un lecteur son, il va faire en sorte qu'il fasse le moins de bruit possible pour laisser toute la place à ce qui va être inscrit dedans. Et donc la technologie quelque part disparaîtrait en dessous de ce qu'on cherche à écouter. Et là c'est un procédé inverse, c'est que moi j'inverse le truc et j'ouvre tout et je remets tout en avant. Donc non, il y a peut-être justement la part d'archive elle est peut-être aussi importante dedans, hein. Mais qui est pour la technologie de lecture et pas la technologie d'archive de garder la trace, hein. J'ai fait un peu un bond dans le temps, mais c'est pas grave, comme ça on va commencer à bifurquer aussi. Je vais revenir un peu en arrière. Et la deuxième année au Frénois, j'avais fait quelque chose qui était un peu en réponse avec la première année. Donc tout ce travail qui était sur les supports d'enregistrement, j'avais regardé ensuite par la suite, ça c'est pas mal quand même. Pardon. Si j'ai des tics de langage, vous me les dites parce que je sais que c'est chiant à entendre. Donc je m'étais intéressé uniquement à tout ce qu'on appelait à l'époque la dématérialisation. Enfin, quand les supports commençaient à disparaître, on a parlé de dématérialisation des supports. Je reviendrai dessus après parce que en fait c'est une mauvaise utilisation de ce mot, c'est pas du tout dématérialisé. Et donc je m'étais intéressé à tout ce qui était signaux non matériels, enfin non physiques, et donc de tout ce qui était ondes radio et de toutes les informations qui pouvaient circuler sans même qu'on se rende compte. Et donc ils sont les données internet, la radio, la télévision. Enfin, on peut pas, c'est difficilement imaginable la quantité d'informations qui est là, présente en ce moment même et qui circule entre les satellites et nos téléphones. Enfin, c'est absolument hallucinant la quantité d'informations qui circulent. Et le projet, c'était un peu de capter la trace de ça et de le mettre en évidence. Et donc j'avais fait des sortes de cartographies. Ça, c'est une carte de l'île uniquement à partir des antennes GSM recoupées avec les différents opérateurs et le rayon d'émission qu'il est censé avoir. Et donc on se rend simplement compte, ça fait une espèce de brouillard comme ça. C'est un terme en plus qui est utilisé en anglais qui s'appelle le électrosmog, qui est le brouillard électronique. C'est pour parler justement de les ondes radioélectriques. Donc on peut avoir aussi des assez belles cartographies dans des zones moins urbaines. Et donc j'avais fait tout un travail de captation dans différents endroits, dans des endroits complètement isolés, dans des villes. Et puis j'ai commencé à répartir par onde en fait, donc du plus bas jusqu'au plus haut, il y en a beaucoup, 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 jusqu'à autour de 250 GHz, où on est ça c'est des communications de radio-astronomie avec des satellites et des choses comme ça. Et en gros j'ai fait une sélection dans toutes ces fréquences qui étaient intéressantes au niveau de l'esthétique sonore et puis de aussi par rapport aux outils que j'avais pour pouvoir capter ces sons. J'ai fait une sélection de 20 sons dont j'ai pris une durée qui était uniquement de 20 secondes, et c'est ça qui a été finalisé dans une édition qui est extrêmement minimale. En fait, juste une feuille de papier comme ça, sauf que en fait les sons ils sont inscrits dessus comme sur un vinyle. Je les ai pressés à Bourges aussi, j'étais venu une semaine pour faire ça en presse gravure. Donc j'avais demandé en fait j'ai utilisé le principe du vinyle, j'ai fait graver les sons au studio, je l'ai envoyé à l'usine, puis j'ai récupéré la matrice, et c'est cette matrice que j'ai pressée directement sur cette feuille de papier. Alors le but, on va retrouver un peu comme tout à l'heure, c'était vraiment d'arriver à une sorte d'objet hyper cohérent entre le sujet abordé et puis l'objet final. C'est d'avoir effectivement une feuille vierge, comme on pourrait considérer que l'air il est vierge, mais en fait il y a plein d'informations qui sont possédées dedans, qui sont inscrites dedans, et que si on cherche à y accéder, on devrait pouvoir. Il faut du bon côté. Et de la même manière, le bruit du papier il est assez important dessus, donc le bruit du support, mais qui pourrait correspondre au bruit parasite quand on écoute une vieille radio avec le bruit de fond. Alors ça demande un petit réglage. Voilà. S'il n'est pas bien centré. Donc c'est pas un disque qui se lit d'un bout à l'autre, mais c'était vraiment dans l'idée d'avoir des informations qui sont inscrites sur la matière et de manière quasi invisible. Et donc ça c'était présenté sous forme d'installation. Où Donc c'était une quadriphonie, il y avait quatre enceintes dans la pièce, il y avait tous les disques étaient au sol, mais il y a peu de personnes qui se sont rendues compte que c'était un disque. Enfin, c'était en libre, les gens pouvaient les prendre s'ils voulaient. Et l'installation elle fonctionnait, en fait le son qui était sur les haut-parleurs il correspondait réellement aux ondes radio qui étaient présentes dans la pièce avec plusieurs capteurs comme celui-ci, mais il y en avait de pour différentes fréquences en fait, donc il y avait 5 capteurs qui permettaient de capter en temps réel donc les ondes wifi, les ondes radio, les téléphones portables. Si quelqu'un téléphonait dans la pièce, ça se mettait à hurler parce que le signal est très fort des téléphones portables. Et c'était mixé en temps réel avec un patch, c'était sur Max MSP, et ça permettait d'avoir une sorte de matière quasi musicale simplement à partir des sources qui étaient présentes dans l'espace.
Je peux le regarder.
Oui, ouais, bien sûr. Ça ?
Ouais.
Ouais, ça s'appelle un trifidmiteur, c'est pour les parano des ondes magnétiques.
Et du coup, avec toi, les ondes qu'il y avait, tu cherchais à les décoder ou c'était vraiment.
Non, c'était vraiment brut. C'était vraiment avoir l'espèce de magma sonore qui est juste révélé. Qui est là, hein. si on met tout plein de capteurs en route, on entend tout ce qui circule.
Du coup, c'est fait que si tu décodes pas même radio FM, tu n'entends pas de musique.
Vaguement derrière. Si c'est en FM, tu entendras la FM. Mais... Je veux dire, même si tu es en Pogo, si tu es en CW par exemple sur ton récepteur, que tu te mets sur la FM, le signal va être pourri, mais tu entends quand même ce qu'il y a dessus. Mm. Après la FM c'est plutôt le genre de bande que j'essayais d'éviter
ouais.
Pour l'esthétique sonore de la pièce en tout cas. Enfin il y avait un scanner radio qui lui balayait en permanence toute la journée de 10 kHz jusqu'à 6 GHz. Et donc il y a forcément un moment il passait par la FM mais très rapidement. Et donc lui il balayait, il mettait quasi 3 heures à faire tout le balayage radio.
Et ça, c'est le genre de machine enfin, que tu as trouvé comment
enfin, c'est une CB.
D'accord, et ça, ouais. Fait, ça ratisse aussi large.
Ouais, ouais. Ça, on pourra en parler ensuite, parce qu'on a un collectif qui est vraiment orienté sur tout ce qui est fonctionnement radio, et il y a des outils hyper intéressants en ce moment, de captation et d'émission, qui s'appellent des HRF. Je sais pas si j'aborderai ça après. Donc voilà pour ce travail-là. Non mais c'est bien, en fait je vais faire le tour de tout ce qui était édition et puis après on reviendra sur des trucs d'installation. Donc parallèle à tout ça, c'est le moment où je commençais à gratter pas mal de vinyles. Et je m'étais mis en fait, donc c'était vraiment à la suite enfin en parallèle avec le premier projet du Frénois là, sur la fabrication des disques. Bah, je m'étais mis vraiment à écouter pas mal de musique expérimentale, de découvrir des mecs comme Christian Marclos, ça faisait un moment que j'en avais entendu parler, mais des gens comme Eric M, comme Martin Tétrault, comme Arnaud Rivière, comme. Toute la scène qu'on peut appeler du turntablisme. Et c'était un truc. Moi, au début, j'ai vraiment commencé à faire ça plus pour m'amuser. Et puis, en fait, il y avait beaucoup de bons retours au niveau des petites expériences de scène que j'ai pu faire. Et c'était le début des premiers concerts qui étaient faits uniquement à partir de. Donc, je partais d'un vinyle vierge, en fait. C'est-à-dire un vinyle où il n'y a aucun sillon dessus, qui doit pouvoir ressembler à ça. Alors vous pouvez en trouver des fois sur certaines éditions de disques où il n'y a presque une seule face, et l'autre elle est parfaitement, il n'y a absolument rien dessus. Donc ça, si on l'écoute, c'est forcément quasiment du silence. Et donc tout le principe du concert, c'était de démarrer à partir de ça, donc un silence assez fort, et de graver les disques en direct, et que chaque outil de gravure y soit amplifié aussi. Et on va faire un petit exemple très simple. C'était vraiment créer la matière au fur et à mesure, donc on peut arriver sur des choses. Donc il y avait forcément un très abstrait au début, puis ça passait par des choses plus rythmiques. Donc forcément, si on se met. Mais le principe de base, c'était vraiment ça. Par contre, ce que je peux faire, c'est faire écouter. Donc ça c'était fait, voilà, hein, c'est vraiment de la bidouille. C'est vous prenez une vieille tête, vous mettez un micro contact, vous le rebranchez sur les contacteurs. Et avec ce genre de choses, ça fonctionne très bien. La série de concerts qui a pu avoir lieu, elle a donné lieu à une édition sur le label Artkila. Et ce disque-là, la pochette, c'est toujours un peu dans l'esthétique des gravures, c'est que c'est une des traces après une des performances, c'est l'état du disque après qu'il a été rayé en live comme ça. Et donc ça a donné lieu à ce disque, c'est juste, ça a été très peu remixé parce que c'est simplement trois concerts qui sont réunis chronologiquement dessus.
Et l'autre côté, il y a une face vierge ?
Alors l'autre côté, elle est semi-vierge parce que je lui ai juste mis un coup de scalpel bien, bien violent. Donc c'est vraiment le set classique du DJ7 avec deux platines, sauf que je multipliais les bras et les différents outils qui permettaient de graver en direct. Donc pareil, en ayant démonté des bras de lecture d'autres platines, un peu comme ça. Passer un temps d'accéléré. Donc ça mettait son petit temps à se construire. Mais... Il y avait vraiment moyen d'arriver à des choses très rythmiques, quasi techno primitives comme ça, sans aucun son au départ, quoi. C'est vraiment que de la rayure et du grincement. concert qui était vraiment bien. Enfin, on retrouvera toujours le. Donc, ce qui est excellent, c'est que quand les deux platines sont synchro, tout ce qui peut se produire dessus, ça va rentrer dans le magma et forcément fonctionner. Mais ça, je l'ai joué pendant quand même quelques années. Et puis, il y a eu un truc assez marrant, et je vous en fais part parce que vous allez peut-être y être confronté un jour ou l'autre. Mais c'est que c'est un projet qui était assez séduisant pour tout ce qui est festival et lieux et tout ça. Et je me suis retrouvé dans le piège où, en fait, les gens me demandaient, enfin, les demandes que j'avais pour jouer dans des endroits ne demandaient que ça. Et c'était vraiment focalisé. Et c'était, j'étais le mec qui découpe du vinyle. Et je me suis vraiment retrouvé piégé comme ça, à ne pas pouvoir leur proposer de faire autre chose parce que tu rentres dans le schéma de... Enfin, ils attendent ça de toi, donc c'est ça que tu dois produire. Et il y a vraiment un moment où j'ai refusé. Après, j'ai dit non, c'est un truc que je fais plus parce que je veux pas être cantonné à ne faire... à être jusqu'à la fin de mes jours à gratter des disques. Enfin, puis en plus, à force de jouer, il y a un moment où on perd la surprise et ça devient hyper... frustrant parce que quand on découvre plus rien et surtout en public, on n'a pas l'impression d'être honnête en fait, parce que les gens ils sont en demande, ils voient qu'il y a un certain risque qui est pris et des découvertes qui sont mises en jeu, en place et tout ça. Mais quand on se retrouve à faire et refaire et refaire et que ça devient plus qu'un une recette qui fonctionne, et ben c'est vraiment triste et on se sent hyper mal. C'est-à-dire que les gens applaudissent et on ne comprend pas pourquoi. Quoi. Parce qu'on se dit, mais en fait, je fais ça depuis un an et demi maintenant. Et donc, il y a vraiment eu un moment où j'ai décidé de couper court avec ça. Et ça a créé un moment de creux hein, derrière. Donc, vous inquiétez pas si ça vous arrive. Il y a eu quelques mois derrière où, ben, forcément, quand tu donnes plus que les gens attendent, et ça crée un peu du vide, mais ça m'a pas empêché de continuer. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait un aller-retour, mais c'est à la suite de ça où j'ai commencé plus à bosser sur les CD, les lecteurs cassettes, ouvrir tout ça et fonctionner plus sous voilà, multiplier les lecteurs et si je reviens. En parallèle à ça, non mais voilà, donc chronologiquement après on en vient à ce genre de choses. Donc ça m'a mis un peu de temps aussi à le développer avant de vraiment être confortable dedans et de trouver les bonnes surprises en live. Et puis j'ai pu commencer à le jouer de plus en plus. Qu'est-ce que... que je fais, je continue sur les éditions pour le moment. Il y a eu en 2011, donc vraiment, ouais, si c'est cohérent, parce que c'était à la suite.
Ouais. J'ai un truc qui me vient pour, sur le vinyle frotté. T'as pas eu envie à un moment de que l'objet édité soit justement un de tes vinyles frottés? Et d'être plus dans un objet qui se lit comme toi tu le lis quand tu es en performance. Pourquoi tu as eu la volonté d'enregistrer de la musique et de la regraver avec la technique vinyle alors ouais. Que toi tu te sers plutôt d'une autre manière de lire le vinyle?
Alors il y a un peu de ça hein, parce que, mais tu vois juste, c'est que donc, d'une part c'est quand tu fais une édition de 300 ou 400 exemplaires, ça voudrait dire que j'aurais dû le faire 400 fois pour pouvoir le sortir.
Ou que tu essayes de le faire graver, presser, tel, comme master, quoi, que tu amènes ça.
Ouais. Ah oui, alors ouais. Ouais.
C'est-à-dire mais en fait, la machine, donc, à un moment, qui... peut reproduire les gestes de l'humain.
Ouais, ouais. Non, ça aurait pu. Ça aurait pu. Après, le choix qui a été fait, c'était effectivement d'avoir un vrai son bien enregistré. Et donc, sur l'autre face, c'était d'avoir juste cette manip qui, quelque part, t'invite à toi, tu peux venir manipuler ton truc et le faire. elle, cette face-là, elle est faite pour ça, quoi. J'aurais pu glisser aussi une lame de cutter avec, et du coup, mais... Non, ouais, c'est juste, il y a moyen, hein. Effectivement, tu peux, à partir de la laque, le graver à la main, envoyer ça à l'usine, ça sera pressé tel quel, si tu viens pas percer trop profond dans la matière. C'est possible, c'est un truc qui a déjà été fait aussi, dans l'histoire des disques un peu originaux. Donc, je m'étais pas dit que je repasserais... j'avais décidé de faire autrement, en fait, ouais. Et bah, disons que tu l'as graphiquement, en fait, ce truc-là de la trace, mais ouais, pas dans le son. À la suite de toute cette série de concerts qui, forcément, donc, je traînais autour de la scène platiniste et des artistes, avec des très bonnes rencontres, ça m'a donné l'idée ou la volonté de réunir un peu les gens qui m'avaient vraiment influencé dans ce travail-là, et qui sont ces quatre personnes, qui sont Martin Tétro, Eric M, Arnaud Rivière, DJ Sniff. Et c'était de les réunir, les inviter en fait à jouer tous les quatre sous forme de quatuor. Sauf que la manière dont j'allais enregistrer ce concert, moi j'allais enregistrer les pistes séparément, donc chaque artiste. Donc ils ont joué autour d'une table carrée, c'était à Pantin pour le festival Malo Pixel. Et donc c'était une table carrée, c'était tous les quatre. Et le son, moi je l'ai enregistré sur quatre pistes séparées. Et ces quatre pistes séparées m'ont ensuite servi à graver, à produire un vinyle à partir de ces enregistrements, mais à graver en fait les quatre pistes sur quatre sillons séparément. Sur chaque face. Et donc ces quatre sillons, ils sont gravés de manière à ce qu'ils s'entrecroisent en permanence sur la surface. Et donc quand on lit le disque, on se retrouve à démarrer dans un sillon qui correspond à une personne, et puis forcément au premier croisement, il va sauter dans l'autre, et etc. etc. Et on se retrouve avec un disque qui se met à improviser le concert que eux avaient improvisé à l'époque. Donc c'était aussi une manière de retourner la pratique du platiniste, où là c'était carrément le disque qui allait jouer des platinistes et plus le platiniste qui joue des disques. C'est un truc qui est intéressant parce que Takuro, qui est DJ Sniff, il fait des cycles de conférences, et c'est un truc qu'il aborde dans une de ses conférences où il parle justement des gens qui scratchent les disques. Et toute la pratique ensuite du platinisme, c'est qu'on se met à... Donc il y a eu une performance d'un musicien qui a été enregistrée, et puis ça s'est passé sur disque, et puis ensuite c'est la platine qui va jouer la performance du musicien. Et quelque part, le mec qui scratch, il vient reperformer sur une performance d'une performance. Et donc cette étape-là, c'était un peu l'étape d'après, où c'est le disque qui joue du scratcher, qui a joué de l'instrument, qui a... ça a donné lieu à cette édition-là. Aussi sur le label Artkiller. Donc il y avait tout un jeu autour du chiffre 4, parce que donc il y avait 4 musiciens, il y a 4 faces, 4 sillons, 444 exemplaires. Et avec juste un texte un peu descriptif sur la technique et les schémas qui permettent de comprendre un peu comment ça se passe. Un truc intéressant qui s'est produit, c'est qu'au-delà du phénomène un peu aléatoire qui peut se produire au niveau de la lecture, c'est aussi la durée qui peut se modifier en fonction du poids qu'on met. Donc si on est très léger, il va avoir tendance à prendre des sillons, il va prendre son temps pour prendre des sillons. Une face peut durer jusqu'à 7 minutes, voire un peu plus, et puis sur la même face, si on met beaucoup de poids, du coup, il va aller beaucoup plus vite vers le centre, il va prendre des raccourcis, et la face, elle peut durer que 4 minutes 30 ou 5 minutes. On peut écouter un extrait. Donc tous les gros phénomènes de panoramique, c'est clairement ce qui se passe physiquement sur le disque. C'est-à-dire que quand vous entendez un son qui arrive par là et qui s'en va par là, c'est qu'en fait il y a eu un sillon qui est venu et qui a croisé le premier de la gauche vers la droite. Donc là, pour vous dire clairement, ça c'est Arnaud Rivière. Là on vient de sauter de sillon, là on doit être sur Eric M. Là un sillon qui se croise un peu mais il garde le même. Arnaud. En fait, c'est en permanence en train de mélanger, mais ils ont des esthétiques sonores très différentes, donc quand on connaît bien leur travail, on arrive à reconnaître qui est qui. C'est difficile à dire, parce que si tu regardes bien, c'est saturé d'informations, donc c'est... Après, il y a un phénomène qui se produit, c'est que généralement, il change de sillon quand il y a une dynamique qui est forte, parce que physiquement, ça crée une grosse vague de son dessus, et donc ça va le faciliter à changer de sillon. Donc ça donne des changements qui sont généralement dus à des impacts. Si le son est stable, généralement, il ne bouge pas. Pardon ?
Sur
acétate. Ouais. Avec un studio à Paris avec qui je travaille depuis le début en fait. Voilà. Mais Ouais. Alors ouais, tu la dragues dans le sens où tu fais ton premier sillon avec un écart qui est assez important. Puis après tu viens t'intercaler dans l'espace qui reste et tu t'amuses à le faire croiser de temps en temps. Puis encore dans l'espace restant, et la dernière passe, tu satures, tu finis les quelques petits espaces qui restent. Mais ça se fait au microscope en fait, ça va. Tu suis la gravure au microscope. Donc la composition, elle s'est faite au moment de la gravure, ça c'est clair. Ouais, chez DK Mastering. Alors, c'est... Voilà. Voilà. En fait, t'as le son, lui, il est gravé de manière linéaire. Donc, quand t'es en mono, t'auras toujours la même profondeur de sillon. Et quand t'as de la stéréo, tu vas avoir le sillon qui va, en fait, s'approfondir ou pas. Et c'est ta pointe de vinyle, quand elle vient lire, elle est dans le sillon. Donc elle vibre en fonction de la fréquence. Et la stéréo, elle va dépendre de la profondeur dans laquelle elle est rentrée, enfin de la variation de profondeur dans laquelle elle est rentrée. Parce que ça te fait ça joue sur la phase, donc tout ce qui est déphasé vient te placer le son à droite ou à gauche, suivant l'ordre de déphasage. Donc c'est pour ça que là, quand il se passe un croisement de sillons, on l'entend arriver de droite à gauche, parce que dans la tête de lecture, il vient clairement frotter sur un côté, il passe et il s'en va sur la gauche. Et ensuite tu le quittes et tu reviens au son. Très grossièrement c'est ça, mais c'est hyper beau. Hein, c'est un monde à part entière le vinyle. Mais... Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà vu ça. Mais c'est absolument fascinant, quoi. Donc c'est le Grand Canyon, là, on est... Ça, c'est un son vinyle, ça.
Et tout ce qu'on voit qui est un peu...
Ça, c'est de la poussière.
Ouais, c'est des crasses.
Ouais.
Le 78 tours.
Un peu après. 80. Si vous voulez tout, je vous conseille vivement ce truc là. C'est un gros pavé, c'est assez imbuvable, mais c'est tellement intéressant que Et là, tu reviens vraiment à la source, justement. C'est parce que 1870, tu as eu un mec qui a fait le phonautographe qui permettait d'inscrire le.
Léon Scott,
qui a permis d'inscrire le son, mais il l'a pas fait dans l'idée de le relire derrière. Ils n'avaient pas la technologie pour le relire. Donc c'était simplement avoir le visuel du son qui était l'onde sonore, quoi. Ouais. Et ensuite, il y a eu les premiers rouleaux de cire et de. Mais sous le même principe, c'est-à-dire c'était une aiguille vibrante qui permettait de garder la trace. Mais tout est décrit d'une manière extrêmement précise dans ce bouquin. Je suis que au début de l'histoire, mais c'est. Faut se le taper, mais je vous le conseille vivement parce que ça vous donne vraiment les bases de la technicité du son.
Félix Cumin a sorti un très beau disque de vieux enregistrements. Je sais pas si tu le connais.
Félix Cumin, ouais, mais je vois pas le disque.
Comment ça s'appelle? Un truc que sur les toutes premières expériences d'enregistrement qu'il a réussi en tout cas à avoir. C'est que des okay. trucs sur cire, mais c'est super beau. Puis il a fait un très beau vinyle, justement.
Si t'as un truc marrant, c'est que donc ces premières traces qui n'étaient pas dans le but d'être rejouées, elles ont été scannées il y a quelques années, et du coup on a pu retrouver le son qui était dedans. Et ils font tous la même durée, c'est 17 secondes je crois, parce que c'était des plaques de verre qui avaient tous la même taille, et généralement c'était de la voix. C'était la voix qui cherchait à inscrire. Quoi. Ouais.
Sur ton site là, sur le SoundCloud, juste au-dessus, tu as utilisé les noms de Martin Détroit et Arnaud Rivière avec des orthographes un peu bizarres. C'était fait exprès ou pas?
Ah non, c'est pas moi qui l'ai fait ça. Il est japonais, c'est pour ça. D'avoir du mal dans les voyelles.
Enfin, je me demandais s'il y avait un rapport avec
Arnold. Ouais, non, mais je me rends compte, c'est DJ Sniff qui l'a mis en ligne ce truc. Et donc il doit avoir des problèmes avec les voyelles. On était là. Juste derrière ça, et toujours sur le vinyle, je me suis amusé à faire cette petite blague qui fonctionne toujours très bien.
Petite question avant, Drift 2, il y a un Drift 2 prévu ?
Ouais. J'y viendrai après. Donc ouais, le Drift, ça va être une série en fait d'expérimentation vraiment autour de techniques de gravure, des sillons croisés, des levages de sillons, juste du pointillisme. On est en train d'explorer on fait pas mal de tests avec la graveuse pour développer des manières de lire un peu différentes, dont le prochain Drift 2, mais je vous en parlerai ensuite. Alors sinon, pour revenir vraiment loin dans l'histoire, parce que cette technique-là, c'est une idée que j'avais eue au Beaux-Arts ici. J'avais fait un premier test avec mes petits sous qui n'étaient pas très concluants. Mais ça va donner le prétexte à faire comme. C'est mon premier, tout premier vinyle, c'est vrai. Et c'était une tentative de croisement de sillons, mais qui a un peu foiré quand même, faut le dire, comparé à l'expérience qu'il y a eu. Où là, il y avait deux sillons qui se croisaient, mais en fait on n'arrive jamais à changer de. Il a vraiment beaucoup de mal à changer de sillon. Et parce que je maîtrisais pas bien du tout la technique à l'époque. Par contre, ça a été vraiment la base de ce qui a pu venir ensuite. Le petit 45 tours, il est où? Non. Ah voilà. Là, ça c'était le CD. Donc ce petit 45 tours, il pose un problème d'ordre technique qui fait qu'on a vraiment du mal à le placer sur un vinyle. L'idée était toute con, hein. Moi, je me suis amusé à. J'ai rebouché d'époxy avec de l'époxy le rond central, recollé un macaron. Et sur la face A du disque, vous avez l'explication. Pour pouvoir trouver le centre exact du disque pour pouvoir le percer correctement. Sauf que logiquement, vous l'aurez déjà percé avant. Donc la notice, elle est un peu factice comme ça. Et derrière, c'est un texte sur les trous noirs et une espèce de poésie autour de la percée du réel et qui était une petite référence. Il y a Jean-Luc André, il est toujours là. Hein. Donc je l'avais invité à écrire un texte et à le lire avec sa voix typique de DDA. Enfin, il est dans le groupe DDA. Et je peux peut-être vous donner le truc que je dis pas à tout le monde. C'est qu'en fait, il y a quand même moyen de le lire hein, sans... Alors, soit vous le mettez, ouais, vous empilez les disques, puis vous pouvez le poser dessus. Mais en fait, il y a une technique qui est toujours rigolote à faire. Est-ce que tu as un rouleau de tape ? Du gaffeur ?
C'est un petit gaffeur, il faut que ça soit large.
Ou ça, ça peut aller, peut-être. Ah non.
Vas-y, tu peux.
Ouais, mais
il faut qu'il y ait un trou. Ouais, ça
c'est bon, Jean-Michel. Donc, c'est que si on fait ça et qu'on fait ça et qu'on fait ça, voilà, on peut lire le disque. Alors il se lit à l'envers, du milieu vers l'extérieur. J'essaie de le sentir. Attends, je lis. Non, oui, c'est ça. En fait, j'ai fait en sorte de graver le texte à l'envers sur le disque. Pour pouvoir le lire à l'endroit, il faut le lire comme ça, en fait. Voilà. En fait, il y a deux pistes son. Il y en a une qui est à l'endroit, l'autre à l'envers. Donc, quand on le lit comme ça, on a accès au texte qui est normalement à l'envers. Et quand on l'écoute dans l'autre sens, on a une série de chiffres qui est les positions des trous noirs dans l'univers. Ça avait été produit par les instants chez Viré, j'avais été en résidence là-bas. Et ils avaient généreusement produit ce petit 45 tours. Pour finir dans les éditions, peut-être on fait une petite pause après. Ça, c'était une collaboration avec un batteur, c'est une espèce de long drone musical. Martin Tétrault, il m'avait fait une petite réponse, il m'avait invité à participer à une exposition qu'il mettait en place, qui s'appelait Phonographe Vinylisé. En fait, il avait demandé à une série de platinistes de leur envoyer leur platine vinyle un peu fétiche, comme ça, et avec laquelle il allait... Alors, il nous avait demandé d'enregistrer les sons de la platine, et puis de lui envoyer les sons et la platine. Et lui, il a gravé des disques, et la platine se met à rejouer son propre son, donc c'est aussi très, très, très tautologique, comme ça. L'expo était assez belle. pas si grave. Et donc il y avait une série de... Donc on pouvait à la fois écouter les enregistrements et sinon c'était une belle salle que vous ne verrez pas, où il y avait bon plein de vieux lecteurs forcément très beaux et très design comme ça. Et puis il en a fait une sorte d'édition hyper limitée où il a juste fait deux exemplaires, un qu'il a conservé et un qu'il a rendu à chacun. Donc c'est un super bel hommage de sa part. D'avoir fait une micro-édition comme ça avec le... Ah bah ça c'est une laque, justement. Et on peut voir la différence de matière. Ah non, ça c'est un PVC, ça c'est une gravure unique. Donc tu vois que c'est pas du tout le même... Pas du vinyle.
Avec deux trous.
Il y a deux trous parce qu'il y en a un qui est fait pour l'aspiration des copeaux.
Ah ouais, d'accord.
Ouais, qui passe en dessous, ouais, c'est ça. Il vient se brancher au milieu et il aspire en dessous. Si tu veux voir exactement, ça c'est la graveuse en elle-même, ça c'est ce qui vient aspirer, et puis t'as ici ce qui permet d'avaler ce qui peut rester. Donc le deuxième trou il vient se caler dans ces endroits-là.
Ça n'a rien à voir en son ou en durée de vie.
C'est en qualité, c'est moins bon en termes de qualité. La durée de vie, elle doit être à peu près équivalente.
Et c'est la tienne, celle-là, c'est ta platine fétiche ?
Ouais.
Que tu l'as
ouais. Ma vieille Philips. Qu'est-ce qu'il y a eu dernièrement ? Ça, c'est sorti sur un net label. Donc je pourrais vous montrer ensuite, mais deux ans, j'utilisais plus que des disques durs en fait pour produire du son. Et j'avais été invité à un festival au Mexique et il y avait un type qui utilisait aussi que des disques durs. Donc le premier truc qu'on s'est dit, c'est qu'on devait jouer ensemble. Et on a sorti cet album. Ensuite, ça c'est un album purement solo, que au disque dur aussi. Donc c'est plus abstrait, je sais pas, il y en a peut-être d'entre vous qui m'ont vu jouer parce que je suis passé plusieurs fois à Bourges. Je pourrais vous montrer après techniquement la manière de prendre le contrôle sur un disque comme ça. Sur ce qui est des éditions, ça c'est tout frais, c'est ce que j'ai fait en novembre à Mulhouse. Et je m'étais mis en tête, en fait ils ont un super bel atelier de sérigraphie, et le bah, qui est assez génial. Et à la suite d'un workshop que j'avais donné là-bas, on avait fait une expérience avec des étudiants qui étaient de sérigraphier avec de l'encre gonflante le négatif du sillon pour essayer de le relire derrière. Et puis, donc ça fonctionne, on pouvait très bien lire le papier. Sauf que l'encre gonflante, elle est de très mauvaise qualité pour ce qui est de l'audio, parce que ça te fait juste un bruit très conséquent comme ça. Et donc, quand je suis revenu en résidence là-bas, j'ai essayé le plus possible d'améliorer la qualité, d'augmenter la finesse de la précision d'impression. Et donc, on a fini au final sur imprimé sur rhodoïde. Donc, c'est un plastique qui est très très lisse, donc ça permet d'être. De gagner en signal sur bruit. Et donc avec une qualité d'impression qui était hyper importante. Le disque en lui-même, c'est ça. Donc c'est une série, on l'a fait en 100 exemplaires, ça sera le premier numéro. J'interviens pas dessus au niveau du son, j'ai plutôt lancé le. Moi je m'occupe que de la partie technique et j'ai invité des gens à participer pour la partie sonore. Donc ça c'est Émeric de Tapol qui a répondu présent pour le premier numéro. Et donc il m'a envoyé un son, c'est relativement court en durée, ça dure 2 minutes 20. La qualité est médiocre, mais c'est vraiment magique en fait. Et alors le truc marrant c'est qu'au fur et à mesure dans la série, normalement il y aura 5 numéros. Vous pouvez télécharger l'image, et vous pouvez aller l'imprimer en sérigraphie, normalement ça devrait fonctionner. Si vous êtes suffisamment soigneux sur le tirage. Donc c'est une espèce de open. Enfin, c'est de la gravure fait maison. Donc je ne mets pas le son en disposition, mais directement le sillon. On devrait pouvoir l'écouter. Alors sinon, donc dans les expériences, j'espère que j'ai pris les bons. On avait pris des sons un peu de référence parce qu'il fallait absolument d'abord savoir si on pouvait reconnaître de la musique ou pas avec une qualité aussi médiocre. Et donc ça demande toujours un petit réglage. Comme au début du siècle sur des. Mais c'était vraiment magique quoi, de à travers une image pouvoir la relire. Plus on va loin dans le. Plus on s'éloigne du centre, meilleure est la qualité en fait sur un vinyle. Pour diverses raisons physiques. Mais ce format-là n'était pas gérable au niveau du tirage. C'est trop. C'est beaucoup trop. Mais là on gagne en qualité. Ça marche, ça c'était vraiment magique. Alors la génération du sillon, je l'ai utilisé, c'est des gens en fait qui avaient créé un patch pour dans Processing pour graver du bois en méthode laser. Voilà.
Le même mec a fait pour l'impression. impression 3D là aussi.
Ouais. Ouais, ouais, voilà. Bah moi j'ai réutilisé ce patch processing pour générer l'image du sillon. Parce qu'en fait tu peux l'extraire en PDF et puis la retravailler dans Photoshop après. Je t'en prie.
Et là c'est quoi comme encre que tu as utilisé sur le dernier vidéo?
C'est de l'encre plastique sur Rhodoïde. Donc en durée de vie elle devrait être correcte aussi. Je peux le percer si vous voulez celui-là. C'est pas vraiment de la musique. Ce que Emeric m'a envoyé, c'est une sorte de matière fondamentale. Il est parti d'une pièce radio qui s'appelle La Révolution électronique de William Burroughs. Et il est reparti de ça un peu comme une voix fantomatique qui serait cachée dedans. D'où le titre Parallèle Universalis. On a vu le signal radio. Hein. Édition. Peut-être on se fait une petite pause, non?
Une fois que tu as fait ça, après tu fais rien, tu es arrivé.
Ah non, il y a encore plein de choses à faire, je sais pas encore lesquelles. Il y a justement le Drift 2, c'est moi qui m'en occupe. Ça sera. Donc Drift, c'est la série des sillons croisés. Sur ArtKillArt aussi. Là, c'est vraiment pure technique, pure, très minimal. C'est un disque hyper minimal. Il n'y a pas de son enregistré. C'est du silence, mais qui est accumulé progressivement sur le disque. Donc, il y a jusqu'à 12 superpositions de sillons quand on se rapproche du centre. Et donc, c'est ça qui commence à générer du bruit, en fait. C'est à force de silence, ça se met à forcément générer du bruit. Ça c'est un disque qui sera accompagné d'un livret avec un texte de Samon Takahashi qui réunit un peu tout l'histoire du silence dans l'enregistrement en fait, et l'importance du silence que le silence a dans l'enregistrement. Donc c'est un disque où il n'y a pas de macarons, c'est vraiment de la matière brute, c'est le vinyle à l'état pur, et ce qu'on entend en fait c'est la matière du vinyle. Donc c'est très minimal, il faut l'écouter fort forcément.
T'es repassé plusieurs fois dans le même sillon?
Non, en fait j'ai démarré le premier centimètre, il y a un sillon, le deuxième centimètre il y a deux sillons qui se croisent, à 3 cm il y en a 3, et etc. jusqu'à 12. Donc ça démarre forcément en silence, et puis il va y avoir les premières intersections qui vont arriver. Il y a aussi des phénomènes de stéréo qui apparaissent à cause de ces. De physiquement par où arrive le sillon et où est-ce qu'il s'en va. différents tons. Pardon. Plus on arrive vers le centre, et plus il y a du. Plus il y a du bruit. Avec des artefacts super beaux, des petits sons aigus et des. C'est assez fascinant. Espèce de petite vie animale. Et le, il est gravé sur deux faces et en fait on entre. C'est, l'idée c'est un peu de, d'entrer progressivement sur la première face dans la matière du disque et puis la deuxième face on démarre avec 12 sillons et on ressort progressivement jusqu'au silence à la fin.
T'en as amené des disques là avant ?
À vendre, non. Non, parce que j'ai pris un exemplaire de chaque et je peux pas vraiment les. Il y en a, ils sont quasi tous épuisés en fait. Donc, le drift, je vais pouvoir le vendre. Le double vinyle. Il m'en reste encore. Et. Je sais pas, peut-être on se fait une pause, non ? Ça veut dire ? Économiser un peu.